VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à toutes. Le Monde aujourd'hui, édition du lundi 2 mars 2015. En direct de Washington, Idrissa Seydoudia et Anne Albertson. Au sommaire de cette édition,
une femme soupçonnée d'être une kamikaze a été lynchée et brûlée hier au Nigeria.
À Bamako, le collectif des ressortissants du nord du Mali rejette le projet d'accord d'Alger, tandis que le premier ministre malien se veut rassurant.
Les professeurs de 5 universités en grève au Sénégal.
Des dizaines de milliers de personnes ont participé à une marche hier à Moscou en hommage à Boris Nemtsov, leader assassiné de l'opposition.
En Irak, l'offensive pour la reprise de Tikrit a commencé.
Nous reviendrons sur le FESPACO de Ouagadougou avec notre correspondant sur place. Et ne manquez pas notre rubrique, la Minute Éco et les sports. Pour l'instant, le journal. Au Nigeria, une foule a lynché puis brûlé hier à Bauchi, dans le nord-est du Nigeria, une jeune femme qu'elle soupçonnait de vouloir se faire exploser, ont indiqué à l'AFP, la police et des témoins. Il y a eu ces derniers jours une série d'attentats suicides attribués au groupe islamiste Boko Haram dans des gares routières et dans des marchés du nord-est et du centre du Nigeria. La jeune femme avait refusé de se laisser fouiller à l'entrée d'un marché.
Selon un des témoins, la femme, qui était accompagnée d'un homme, a éveillé les soupçons lorsqu'elle a refusé d'être contrôlée au détecteur de métaux à l'entrée de la gare routière proche du marché et qu'on a découvert 2 bouteilles attachées de chaque côté de sa taille.
L'ONG tchadienne Droits de l'Homme et Sans Frontières tire à nouveau sur la sonnette d'alarme concernant le phénomène d'enlèvement d'enfants contre rançon qui terrorise les populations de la région de Mayo-Kébi-Ouest. L'ONG déplore le manque d'action des autorités locales et nationales face à cette situation. Timothée de Nangmaï, adjoint à N'Djamena, de Zoumbé, Daniel Passalé, président de Droits de l'Homme sans frontières.
Entre le 18 et le 19 février, il y a eu une prise des enfants contre rançon dans la région de Mayo-Dala, donc exactement au sud-ouest du Tchad. Or, c'est un phénomène qui date de plusieurs années et avec le drame de Matalere, que tous les Tchadiens connaissent d'ailleurs, on a cru que le problème est définitivement réglé. Or, non, à notre grande surprise, on vient d'apprendre qu'il y a encore des enlèvements contre rançon.
Qui enlève ces enfants?
Difficile de dire qui enlève. Parce que ces gens, ils bénéficient de beaucoup de complicité. Ces complicités même pourraient être parmi les autorités. On a attiré l'attention du gouvernement central sur cette question afin qu'une enquête sérieuse puisse être menée. Ils ne le font jamais. Et généralement, on essaye de se fier au rapport que ces autorités militaires administratives envoient. Or, ces gens-là, pas toutes, mais certaines autorités sont véritablement impliquées. Par exemple, vous prenez certaines autorités qui avaient été sanctionnées à son temps. Ils ont suspendu. Et quelques années plus tard, ils reviennent, ils nous prennent de fonction plus haute que celle qu'ils occupaient avant.
Eh bien, c'était de Zoumbé Daniel Passalé, président des Droits de l'Homme sans frontières, joint à N'Djamena.
La Guinée, la Sierra Leone et le Libéria se sont engagés à mettre fin à l'épidémie d'Ebola avant la fin de ce mois. Mais la Guinée reste confrontée aux réticences dans des localités non loin de Conakry, la capitale, nous dit notre correspondant sur place, Zakaria Camara.
À quelques jours de l'objectif zéro Ebola en 60 jours, une vingtaine de cas confirmés sont traités dans les différents centres du pays. Malgré ce bilan, le ministre guinéen de la communication reste optimiste. Alhoussein Makanira Kake.
Les localités censées être réticentes, ce sont ces populations qui appellent le personnel soignant, le personnel humanitaire, dès qu'ils voient que quelqu'un est malade.
Les nouveaux foyers proches de Conakry constitue de nouveaux défis. Folita Cecilia est responsable du service communication de la Coordination nationale de lutte contre Ebola.
Aujourd'hui, notre ennemi, ce n'est pas l'épidémie d'Ebola, c'est l'épidémie de la réticence. de la négation, du déni, l'épidémie de la révolte, je peux dire même de la rébellion de certaines populations, sachant parfaitement c'est quoi Ebola, connaissant bien la dangerosité du virus, sachant très bien la rapidité de contamination, les populations, sachant tout ça, refusent catégoriquement et s'attaquent à nos équipes de prise en charge ou de sensibilisation.
La fièvre hémorragique à virus Ebola a tué plus de 1500 personnes en Guinée. Conakry, Zakaria Camara, pour La Voix de l'Amérique.
Deux personnes sont mortes dans l'explosion d'une bombe posée près d'un commissariat hier soir dans la ville d'Assouan, en Haute-Égypte, a appris l'AFP auprès de la police.
Il s'agit du premier attentat dans ce haut lieu touristique depuis le début des attaques de groupes djihadistes qui visent essentiellement l'armée et la police depuis la destitution du président islamiste Mohamed Morsi en juillet 2013. La bombe a également fait 5 blessés, dont un policier, ont précisé des responsables de la police.
Washington, La Voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Des dizaines de milliers de personnes ont participé à une marche hier à Moscou en hommage à Boris Nemtsov, leader assassiné de l'opposition. La plupart des manifestants portaient des drapeaux russes et des pancartes disant « Je n'ai pas peur ». 70 000 personnes ont participé à la marche, selon les organisateurs, et 21 000 selon la police de Moscou. Le libéral Nemtsov était connu pour ses critiques acerbes contre le président russe Vladimir Poutine. Il a été tué vendredi soir près du Kremlin.
Boris Nemtsov devait mener hier une marche contre le président Poutine et contre la guerre en Ukraine. Il a été abattu par des individus à bord d'un véhicule alors qu'il traversait un pont en compagnie d'une femme. Cette dernière n'a pas été touchée. Le président Poutine a dit que cet assassinat est un acte de provocation et selon le Kremlin, il supervise personnellement l'enquête.
À noter la rencontre aujourd'hui en Suisse entre le secrétaire d'État américain John Kerry et son homologue russe Sergei Lavrov. À l'ordre du jour, l'Ukraine et l'assassinat de Nemtsov. Une enquête exhaustive a été demandée à ce sujet par M. Kerry. Et puis en Irak, une coalition de forces gouvernementales et de milices a lancé l'offensive tant attendue pour chasser les militants du groupe État islamique de Tikrit. Le premier ministre et commandant en chef du pays, Haider al-Abadi, a annoncé le début de l'opération hier en se rendant dans la ville proche de Samara pour superviser les efforts de libération de Tikrit et du gouvernorat avoisinant de Saladin.
Visite controversée du Premier ministre israélien ici aux États-Unis cette semaine. Benjamin Netanyahou s'adressera demain aux deux chambres du Congrès. Une initiative programmée par le président de la Chambre des représentants, le républicain John Boehner, sans concertation avec la Maison-Blanche. Les précisions de Timothée Donangmaï.
Avant de quitter son pays, le Premier ministre israélien a expliqué qu'il s'agit pour lui de tenter d'empêcher un accord entre les puissances mondiales et l'Iran sur le programme nucléaire iranien. La Maison-Blanche n'a pas apprécié l'entorse au protocole et quelques législateurs américains prévoient de boycotter le discours de M. Netanyahou. En Israël même, des voix s'élèvent contre sa visite à Washington peu avant les élections israéliennes de ce mois-ci. Moshe Rosman est un habitant de Jérusalem. Vous avez des membres du Congrès qui boycottent le Premier ministre d'Israël. Des faits sans précédent qu'il sera difficile d'inverser. C'est bien évidemment une manœuvre électorale qui n'a rien à voir avec la sécurité d'Israël, dit-il. Le chef du gouvernement israélien n'est pas de cet avis. Je crois en la solidité des relations avec les États-Unis et à travers elles, nous surmonterons ces différences, de même que celles à venir. En tant que Premier ministre d'Israël, il est de mon devoir de veiller à la sécurité d'Israël et c'est pourquoi nous sommes fermement opposés à l'accord en cours de discussion entre l'Iran et les puissances, a déclaré M. Netanyahou, ajoutant qu'un tel accord mettrait en danger l'existence même d'Israël.
Et maintenant, La Minute Éco avec Nathalie Barge.
Le groupe C'est Moi ouvrira en mai sa première chocolaterie à Abidjan, en Côte d'Ivoire, indique Jeune Afrique, citant une déclaration du PDG du chocolatier français Patrick Poirier au Salon international de l'agriculture de Paris. Avant de produire du chocolat, l'usine produira de la poudre de cacao et de la pâte à tartiner pour le marché sous-régional. Selon Hervé Assa, représentant de la Banque mondiale au Togo, l'Afrique est le continent qui réforme le plus en matière d'amélioration de l'environnement des affaires. C'est ce qu'a déclaré le fonctionnaire international à l'ouverture du forum Africa Best Practices qui s'est tenu à Lomé du 26 au 28 février. Il a rappelé la forte progression du Togo, troisième meilleur réformateur au monde, devant la Côte d'Ivoire et le Sénégal, indique la revue Financial Afrique. La Chine a imposé une interdiction d'un an à l'importation d'ivoire ouvragé en réponse aux critiques internationales accusant la demande croissante du marché chinois qui alimente le massacre des éléphants en Afrique. La mesure a été qualifiée de purement symbolique par l'ONG Trafic, un réseau de surveillance du commerce de la faune et de la flore cité par l'AFP. Pékin est signataire de la Convention sur la protection des espèces en danger, mais la Chine reste le principal consommateur mondial d'ivoire de contrebande.
À présent, notre page sport avec Élisée Oumpatine. Bonjour Élisée.
Bonjour Idrissa.
Commençons par la CAN des moins de 17 ans, le Mali sacré champion.
Vainqueur de l'Afrique du Sud 2-0, le Mali inscrit son nom pour la première fois au palmarès de cette compétition. La Guinée remporte, elle, la troisième place grâce à sa victoire de 3-1 face au Nigeria. A noter que ces quatre formations sont qualifiées pour la prochaine Coupe du Monde de cette catégorie.
Tour préliminaire de la Ligue africaine des champions de football, le CEE Sport éliminé.
Il s'agit des Panthères du Ndé et de Unisport de Bafang. Panthères battus au retour comme à l'aller sur le même score de 1-0. Unisport, qui a pris l'avantage 1-0 au match aller, a perdu chez les Sénégalais d'Olympique Ngor 3-1. Élimination également des Béninois de l'AS Police après son match du 0-0 concédé à domicile face aux Ghanéens d'Asofoc Dakra, vainqueur déjà à l'aller 1-0. Les Algériens du Mouloudia, c'est un peu la grande surprise de ce tour préliminaire, qui ont été sortis par les Nigériens de Sahel Sporting Club 0-0 à l'aller et 2-0 au match retour pour le club de Niamey. Qualification par contre pour le Petro Atlético de Luanda, vainqueur du Volcan des Comores. Ça passe aussi pour les Nigériens de Dolphins et de Warrivals, également pour les Togolais de l'AS Togoport et des Maliens de 11 créateurs.
En Coupe de la CAF, les représentants camerounais sont tous éliminés.
Battu déjà à l'aller 2-1 par l'AS Kaloum, le CEE Sport de San Pedro n'a mieux fait qu'un match nul à Bamako, 1-0. Les Béninois des Buffles de Parakou n'ont pas pu refaire leur retard de 3-0 du match aller face aux Nigériens d'Enimba, puisque battu une nouvelle fois à domicile 1-0. Qualification par contre pour les Sénégalais de l'AS Pikin au dépend des Burkinabés de l'étoile filante de Ouagadougou. Ça passe aussi pour les Sud-Africains de Kaizer Chiefs et des Mamelodi Sundowns, tout comme les Soudanais d'Al Merrekh et d'Al Hilal. Qualification d'Asanti Kotoko, de Koumansi et du stade malien de Bamako. Notons aussi la qualification de Manga Sport, de Sanga Balende, de Semasi de Sokodé, de Cosmos de Bafia, du Raja de Casablanca ou encore des Nigériens de Kano Pila.
Au Togo, le nom du nouveau sélectionneur sera bientôt connu.
Il s'agit vraisemblablement de Jean-Paul Abalo. Les négociations pour trouver un accord avec l'ancien international togolais sont en cours depuis la fin du contrat de Tchalilé Tchakala, qui n'a pas réussi à qualifier les éperviers pour la CAN 2015. Le comité de normalisation de la Fédération togolaise de football et le ministère des Sports sont en discussion pour trouver à la tête des éperviers un nouveau sélectionneur. Tout porte à croire que c'est Jean-Paul Abalo qui sera porté à la tête de la sélection togolaise. L'homme qui vient de démarrer sa carrière d'entraîneur en France aura pour objectif de qualifier le Togo pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu en 2017.
En basketball, élimination du Sénégal pour l'Afro Basket 2015.
Huitième de finaliste pour le dernier mondial du Sénégal a été éliminé par le Mali. Déjà battu de 22 points à l'aller, les Sénégalais ont perdu à domicile 47 à 50. Une défaite qui élimine du coup les Lions de la Teranga pour le prochain Afro-Basket. Et puis dit ça, on reste en basketball et vous nous donnez les résultats de quelques matchs joués cette nuit en NBA.
Elle est Clippers 96, Chicago 86. Cleveland de LeBron James, battu par les Rockets de Houston 105-103. Portland 110, Sacramento 99. Golden State Warriors 106, Boston 101. Philadelphia 74, Indiana 94. Charlotte 98, Orlando 83. Oklahoma City 108, LA Lakers 101.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. La coordination des mouvements de l'Azawad a refusé de paraffer le projet d'accord d'Alger à la différence du gouvernement malien. À Bamako, le collectif des ressortissants du nord du Mali, Coren, rejette pour sa part le document, alors que le Premier ministre, qui a réuni la société civile et la classe politique, tente de calmer le jeu. Mais plusieurs associations ne sont pas d'accord avec le document en l'état, nous dit notre correspondant sur place, Kassim Traoré.
C'est au cours d'une conférence de presse que le collectif des ressortissants du nord du Mali a donné son avis sur le projet d'accord d'Alger. Maître Malik Ibrahim, porte-parole du Coren.
Dans le document, il est écrit que l'Azawad est une réalité socio-culturelle, mémorielle, symbolique, partagée par une communauté du nord faisant partie de la nation du Mali. Il n'y a rien de plus faux que cette affirmation. Et nous sommes sortis pour dire que c'est un piège consistant à dire aux Maliens, puisque les éléments du MNLA font marcher les gens contre la signature de cet accord et d'ailleurs la coordination ne l'a pas signé, c'est un bon accord pour le Mali, mais c'est fou. Il n'y a rien de plus faux que ça.
Mais certaines communautés jouent à la vigilance. Baba Ould Mohamed, maire du Tlemcen.
Ne prendront pas un engagement sans pouvoir prendre acte de toutes les réserves émises lors des différentes concertations sur ce préaccord. C'est pour cela que si le gouvernement dit aujourd'hui qu'il est prêt, nous sommes sûrs que toutes nos recommandations, toutes nos réserves ont été prises en compte. C'est pour cela que nous sommes avec le gouvernement et nous allons soutenir ce que le gouvernement va signer.
Face à la situation, le Premier ministre malien a réuni la classe politique, opposition et majorité, la société civile, afin de donner la version du gouvernement malien. Modibo Keïta, Premier ministre du Mali.
Mais je dois vous avouer qu'après avoir pris connaissance de cet accord, le gouvernement a noté que les préoccupations essentielles ont été sauvegardées dans ce projet d'acte. C'est dire qu'elles sont applicables à toutes les régions du Mali, pas seulement aux régions du Nord. C'est dire qu'aucune entité politique née d'un regroupement territorial ne saurait exister au-dessus de la région. À propos de l'appellation Azawad. Mais cette fois-ci, la médiation a estimé que ça ne pouvait pas couvrir une entité politique et que de toute façon, il est prévu dans l'accord un débat national pour trancher définitivement cette question.
Maître Malik Ibrahim, porte-parole du collectif des ressortissants des régions nord du Mali.
Donc en ce moment-là, qu'ils ne mettent rien dans l'accord, mais qu'ils attendent qu'il y ait un débat pour affirmer que l'Azawad est une réalité socio-culturelle, mémorielle et symbolique. Il faille une concertation nationale, mais qu'on ne mette pas, qu'on n'affirme pas. Et si le Mali va dans ce sens, parce qu'il est faible, les populations du Nord, au nom desquelles nous parlons, ne l'accepteront pas.
Les jeunes du Nord ont lancé des appels à la mobilisation dans toutes les régions pour dire non au projet d'accord d'Alger. Alpha Moui Aydra, responsable de la jeunesse du Coren.
Reconnaître Azawad, c'est donner l'indépendance à ces gens. Ils sont derrière ça il y a des milliers d'années. Je vous ai dit que ces gens sont même une télé. Et une télé qu'on peut capter même à partir de Bamako. Demandons à ce qu'on enlève le mot Azawad dans l'accord. Qu'on soumet tout à une concertation nationale.
Et si tout va bien, c'est le 16 mars prochain que le projet d'accord sera signé au Mali. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique, 24 heures sur 24, à Bamako, sur 102 FM.
Au Sénégal, les professeurs des 5 universités sont en grève et prévoient de durcir le ton. À l'issue de leur assemblée générale ce lundi, les étudiants de l'université de Dakar, dont les études ont été assez perturbées l'année dernière à cause des grèves à répétition, ainsi que leurs parents, craignent le pire pour l'avenir. Au cœur de la dispute, une loi cadre sur fond de proposition de réforme de la Banque mondiale, nous dit notre envoyé spécial à Dakar, Idriss Fall.
Les universités sénégalaises fonctionnent au ralenti, voire sont à l'arrêt. C'est la suite d'une grève du syndicat autonome de l'enseignement supérieur. Pourquoi les profs ont-ils boudé les salles de classe ? Idriss Abba, porte-parole du SAES à Dakar.
Parce qu'on a tenté de nous imposer la loi cadre qui va aux antipodes des textes qui régissent l'université, que l'on retrouve dans ce que l'on appelle les franchises universitaires et les libertés académiques. Et cela veut dire que pour faire commerce du savoir, nous avons besoin d'un certain nombre de protections. Or, il se trouve que la loi cadre va à l'encontre de tout cela en prenant aux universités et aux universitaires leurs prérogatives, leur autonomie, pour l'essentiel les mettre entre les mains du privé et des privés.
Mais quel est le rôle de la Banque mondiale dans tout cela ?
Il y a de cela quelques années, nous avons reçu à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar des fonctionnaires de la Banque mondiale. Ils avaient procédé à un diagnostic qui constituait en quelque sorte à dire que les universités coûtent trop cher à l'État, qu'au fond, nous n'avons pas besoin d'études aussi longues, que certaines filières sont inappropriées par rapport à notre économie et que par conséquent, il fallait remettre tout cela en cause. Et que l'État, pour des raisons que nous ignorons, mais qui très certainement sont liées à la disponibilité des capitaux octroyés par la Banque mondiale, donc l'État est en train d'appliquer cette politique-là.
Une assemblée générale prévue ce lundi promet de durcir le ton. Après 2 fois 72 heures de grève, les étudiants ne savent plus où donner de la tête.
C'est Jean-Marie Faye, tu es étudiant à la fac sciences, département PC. La grève n'est pas bonne. Les profs doivent arrêter.
C'est une saladien, la faculté des droits juridiques et politiques. C'est une situation déplorable, mais l'État doit prendre ses précautions pour que les études puissent se passer dans de très bonnes conditions cette année.
Je me nomme Modouar Dignay.
Les enseignants, je crois qu'ils doivent essayer d'aider les étudiants parce que nous sommes là pour étudier. C'est difficile de quitter chez vous et venir ici pour étudier et que les enseignants font la grève. Ils attendent jusqu'à la fin de l'année pour nous boucler les cours. Heureusement, nous, à la faculté de médecine, il n'y a pas de grève, mais dans les autres facultés, les enseignants feront la grève, comme la faculté des sciences et les autres. J'exhorte les enseignants à revenir sur leur mot d'ordre et travailler pour le bien-être des étudiants et l'avenir du Sénégal.
Les parents d'élèves aussi sont très fâchés contre ceux qui veulent sacrifier l'avenir de leurs enfants. Ibou Diallo, un ancien professeur et aussi ancien syndicaliste, aujourd'hui à la retraite.
La grève des enseignants, c'est un gros problème parce que le processus qui a permis de mettre en place une loi, si on doit la contester, c'est en amont. Si vraiment on ne l'a pas fait pour que la loi soit retirée ou révisée, il faudrait quand même qu'on la mette en application pendant un temps et qu'on constate les défaillances ou les dysfonctionnements pour pouvoir formuler sur la base d'arguments concrets, dire que cette loi-là est en train de pervertir le fonctionnement de l'université et à partir de ce moment, demander à ce que les modifications soient apportées.
Vous semblez dire que la grève n'est pas justifiée?
Non, elle n'est pas justifiée. L'un des gros problèmes aussi dans ce pays, c'est que les enseignants vont en grève et ils sont payés. Et parfois, c'est des grèves qui sont extrêmement longues. On reste longtemps sans aller en classe, sans travailler. Et à la fin du mois, les gens sont payés.
Depuis Dakar, Idriss Fall, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique au Sénégal sur Top FM à Dakar et Radio Al-Faïda à Kaola.
Russ Feingold quitte ce mois-ci son poste d'émissaire spécial des États-Unis pour la région des Grands Lacs et la République démocratique du Congo. Dans son discours d'adieu le mois dernier à l'Institut américain pour la paix, il a parlé des défis qui se posent encore dans cette région d'Afrique. Eddie Isango.
Les conflits en RDC a coûté la vie à au moins 5 millions de personnes depuis les milieux des années 1990 et fait plus de 2,5 millions de déplacés. Une bonne partie des affrontements, de la violence et des agressions sexuelles ont eu lieu dans l'est du pays et ont impliqué plusieurs groupes armés. L'ancien sénateur Feingold a été émissaire spécial pendant 18 mois.
In my view,
À mon avis, la région des Grands Lacs implique notre propre sécurité nationale ainsi que les défis écologiques et économiques propres au XXIe siècle. Assurément, ces véritables liens entre cette région et nos priorités nationales justifient, sinon exigent de notre part, plus d'attention sur ce qui se passe dans la région. M. Feingold soutient que les États-Unis doivent éviter de considérer la situation en RDC comme une simple situation morale et humanitaire.
Nos intérêts nationaux, y compris nos engagements envers la démocratie, la liberté politique et la sécurité nationale, et notre position de leadership international, doivent faire aussi partie de notre approche envers les Grands Lacs en Afrique. Feingold a visité la région des Grands Lacs 15 fois en tant qu'émissaire spécial des États-Unis. Il considère l'accord cadre de paix, de sécurité et de coopération de 2013 comme une étape importante pour l'apport des États-Unis et l'engagement international dans la région. L'ancien sénateur affirme que l'accord comprend des engagements régionaux à ne pas soutenir des groupes armés et à respecter l'intégrité territoriale.
Now, it's no surprise to me that 2 years later,
maintenant, ce n'est pas une surprise pour moi que 2 ans plus tard, beaucoup de causes profondes identifiées dans l'accord cadre et les processus connexes restent en suspens. Mais au milieu de nombreux signes et incidents inquiétants, il y a eu une certaine amélioration sur certains problèmes de longue date très complexes qui ont frappé les pays des Grands Lacs. Et il y a de bonnes raisons d'être optimiste quant à l'avenir de la région. Pour M. Feingold, des progrès ont été réalisés contre ce qu'il appelle l'ensemble des groupes armés. Et il reconnaît qu'il n'y a plus un grand obstacle pour la coopération économique régionale, mais que de nombreux problèmes liés au conflit demeurent. Il est d'avis que tous les efforts de paix doivent répondre à des critères spécifiques pour la réussite.
Peace in the DRC demands justice. And the end of impunity for war crimes.
La paix en RDC exige la justice et la fin de l'impunité pour les crimes de guerre, crimes contre l'humanité, y compris la violence sexuelle et basée sur le genre et les recrutements et l'utilisation d'enfants soldats. M. Feingold soutient que ces conditions ont été abordées dans les déclarations de Nairobi, négociations cruciales qui ont conduit à la défaite des rebelles du M23. L'émissaire américain indique cependant que l'accord n'aborde pas les causes profondes du conflit vieux de plusieurs décennies dans l'est de la RDC. Il admet bien que des progrès ont été réalisés pour ce faire, mais qu'ils ont été lents. Il ajoute qu'une attention internationale complète et durable est encore nécessaire. L'élimination des rebelles des FDLR, de l'ADF et d'autres groupes armés, dit-il, est une question qui doit bénéficier d'une attention particulière. Feingold a également exhorté le gouvernement de la RDC à fixer une date en 2016 pour l'élection présidentielle.
La Voix de l'Amérique en RDC, sur Radio Télé Mwangaza, à Lubumbashi, province du Katanga.
Nous revenons ce matin sur la cérémonie d'ouverture du FESPACO samedi en présence du Premier ministre burkinabé Yacouba Zida au Palais des Sports de Ouagadougou. Une cérémonie de lancement riche en couleurs avec, nous dit notre correspondant sur place, un spectacle d'ouverture très acrobatique et aussi les notes musicales distillées, dit encore Zoumana Wonogo, par le chanteur sénégalais Ismaël Lo. Le reportage de Zoumana.
Je voudrais d'abord féliciter tous les acteurs du monde du cinéma africain qui ont fait le déplacement de Ouagadougou parce qu'ils ont cru donc à cette biennale qui est la leur. Et je veux les rassurer, également rassurer toutes les populations que tout est mis en œuvre pour que cette fête du cinéma africain soit une très belle fête.
Ces mots du Premier ministre burkinabé Yacouba Isaac Zida donnent le clap de départ de la course pour la succession du Sénégalais Alain Gomis au Grand Prix du FESPACO. Une course qui s'annonce âpre avec la qualité des films et le fait que les montants des prix ont été revus à la hausse. Ainsi, les talons d'or passent de 10 à 20 millions de francs CFA et tous les autres prix aussi passent du simple au double. Cela aiguise certainement l'appétit des cinéastes. Les Ivoiriens veulent gagner comme les éléphants footballeurs. Les Maliens entendent s'adjuger un quatrième étalon. Quelles sont alors les chances du Burkina qui court derrière l'étalon depuis 1997? Désiré Ouédraogo, le président de la Commission nationale d'organisation, répond avec un brin plein d'humour.
La France organise le Tour de France, mais j'ai rarement vu les Français sur les premières marches. Mais c'est un événement qui est extrêmement important pour la France. Qu'est-ce que la France sans le Tour de France? Ils y tiennent. Nous également, nous tenons au FESPACO, non pas pour le Burkina, mais pour l'Afrique entière et sa diaspora. C'est ça qui est important, donner l'opportunité à tous les cinéastes africains et à ceux de la diaspora de se rencontrer, d'échanger, de présenter leurs meilleurs produits et de trouver un marché pour ces produits-là. Et maintenant, si un Burkinabé sort du lot comme lauréat, nous allons tous applaudir.
Avec tout cela, le jury a du pain sur la planche, mais son président, le Ghanéen Kwa Ansa, se veut rassurant.
In the presence of the jury is to ensure that you and your jury members.
Être président du jury, c'est veiller à ce que les membres du jury et vous-même visionniez les films de manière critique, que les qualités méritant d'être primées soient scrutées sans parti pris, afin que tout le monde soit satisfait des choix opérés.
Everybody is happy with the judgment.
Zoumana Wonogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seloudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.